France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores.
Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique Boutel, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, ça n'est pas très drôle, Jean-Yves, ce que vous nous apportez comme archive.
Non, vraiment, nous ne sommes pas là pour rigoler. Vous savez, nous célébrons en ce moment la grande bataille de Verdun, oui. Avec ces milliers de morts.
De jeunes morts, oui.
Et je voulais aujourd'hui mettre en relief ce qui a d'ailleurs été mis en relief pendant des années à la radio, mais d'un point de vue assez monophonique, c'est-à-dire qu'on célébrait toujours la gloire de Verdun, la victoire, etc. Or, ce son de voix unique était loin d'être le reflet de la réalité. Il y a eu des mouvements pacifistes qui se sont développés très très importants dans l'immédiate après-guerre et qui ont duré jusqu'à la guerre suivante. Et c'est un petit peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons nous replonger dans le contexte. En 1916, Verdun, c'était ça.
Dans les ruines d'une chapelle, en plein cœur de Verdun meurtrie, un rossignol et sa femelle avaient abrité l'homme petit. Mais des deux rives de la Meuse, des poches, les canons hideux faisaient pleuvoir tout autour d'eux des torrents de mitraille affreuse. Et les mignons petits oiseaux riant des obus et des balles jetaient après chaque rafale leur cuisse-cuisse à tous les échos. Alimenter sa nichée, le mal allait 100 fois par jour, dans la campagne saccagée, et 100 fois disait en retour. Petits enfants, dormez tranquilles, les poches à grands coups de mort, prendront peut-être quelques forts, mais ils n'auront jamais la ville. Et les mignons petits oiseaux, riant des obus et des balles, jetaient après chaque rafale leur cuisse-cuisse à tous les échos. Et pour leur montrer les Prussiens, là-bas à l'entrée d'un village, leur rossignol conduit les siens, hardit les poches, les gringoles, nos petits oiseaux verdenois, sifflant de vieux refrains gaulois, autour des tours des Français volent. Et les mignons petits oiseaux défiant la horde infernale, jetaient après chaque rafale leur cuisse-cuisse à tous les échos.
Léonce Bergeret, avec orchestre, chantait donc ses Rossignols de Verdun. Ça date de 1916, Jean-Yves Pat. Qu'est-ce que c'est? C'est un hymne à la gloire de la France?
Alors, c'est une sorte de chanson un petit peu inconsciente. On l'entend bien, ces petits Rossignols de Verdun qui guident les piou-piou vers la victoire. Ça mitraille, ça tue, ça tombe comme à Gravelotte.
C'est assez choquant, mais
dans le cadre de l'époque, c'était mettre en avant la vaillance, l'indifférence du soldat français à la mitraille, au danger et sa bravoure extrême. Alors, la réalité, vous le savez, est tout à fait différente. Et je voulais vous emmener 20 ans plus tard, en 1936, à l'ossuaire de Douaumont. Déjà, rien que
déjà
le nom de
l'ossuaire
de Douaumont nous replace dans d'autres réalités. Écoutez quelques extraits d'une grande série de disques qui a été publiée lors d'un rassemblement pour la paix. Pour la première fois, des milliers et des milliers d'anciens combattants de tous les bords, c'est-à-dire qu'il y avait aussi les anciens ennemis qui sont venus et qui ont médité pendant une nuit sur la paix et sur la nécessité absolue de la paix, alors que on le sait, depuis 1933, en Allemagne, ce n'est pas le discours non plus qui se développe. 1936, c'est une année symbolique, oui. Évidemment. C'est le Front populaire.
En France, on a donc, c'est pas loin de 1939 non plus.
C'est pas loin de 1939 non plus, et on a cette grand-messe dramatique qui est tournée vers la paix, et je vous propose tout de suite d'ouvrir les micros, comme si nous étions dans la nuit du 12 au 13 juillet 1936.
Mesdames, messieurs,
Camarades, nous sommes à Douaumont, à quelque distance de Verdun, qui fut l'enjeu de la plus gigantesque bataille que le monde ait connue, devant le cimetière qui s'étend au pied du monument où s'entassent les ossements de 400 000 morts. Les anciens combattants français ont solennellement convoqué tous les hommes qui prirent part à la Grande Guerre, français venus de tous les coins du territoire, ex-alliés, ex-ennemis, les invitant à mesurer fraternellement avec eux la vanité des conflits et à prendre l'engagement sincère et formel de les épargner à la vie.
Voilà, comme vous l'entendez, c'est assez poignant, c'est un reportage, c'est du faux direct, mais les sons que vous entendez, comme le glas actuellement et la sonnerie aux morts qui va succéder, sont des enregistrements qui ont été réalisés sur le vif par ces amateurs, parce qu'il faut bien le dire, les enregistrements sont amateurs, de très mauvaise qualité, mais c'est assez poignant de retrouver cela. Il s'agit donc d'une grande cérémonie nocturne, et à minuit, on a éteint toutes les lumières autour de Douaumont, tous les anciens combattants, tous les amis de ce rassemblement pour la paix qui étaient là, se sont retrouvés plongés dans les cimetières et dans le noir. Voilà, donc on se trouve au cœur de cette cérémonie. La musique militaire, la musique des cloches est assez présente. Mais il y avait aussi des commandes musicales qui ont été réalisées à l'époque pour ce rassemblement, cette fameuse nuit de méditation et d'appel à la paix qui va se terminer par un serment de la paix. Et il y a un compositeur russe, pacifiste et mystique, qui a été intéressé à cette cérémonie. Il s'agit de Nikolai Obukhov, qui avait fui la Russie révolutionnaire et qui était arrivé à Paris, qui avait pris contact avec Ravel, qui l'avait d'ailleurs bien accueilli et l'avait encouragé à continuer sa musique. Et il avait trouvé une protection auprès de la princesse Jacques de Breuil. Et la princesse Jacques de Breuil était devenue une de ses élèves, car il avait mis au point, en s'inspirant des travaux de Léon Thérémine, une croix sonore. Alors ça ressemble à une croix chrétienne, c'est pourquoi j'insistais sur le mysticisme de ce compositeur. Et cette croix sonore émettait des sons qui étaient dans la tessiture du violon. Ici, dans cette grande cérémonie, l'instrument est joué avec la princesse de Breuil aux ondes de la croix sonore et le compositeur lui-même au piano. C'est un enregistrement en plein air, c'est de très mauvaise qualité, mais c'est le seul enregistrement connu à la fois d'une pièce de ce compositeur et de cet instrument dans son temps.
Et à présent, de la croix sonore commence
C'est un peu tranché comme enregistrement.
Oui, c'est du plein air et puis c'est sur le site même, c'est dramatique. Il s'agissait du tout-puissant Béni la paix, donc de Nikolaï Obokov, avec le compositeur au piano et son élève, la comtesse Marie-Antoinette Osnade de Breuil, qui jouait de cette fameuse croix sonore que vous pouvez voir sur le site. J'ai mis une petite image de la croix sonore. Alors on parlait de Térémine, qui a été l'inspirateur de cette croix sonore. Térémine, vous le savez, dès 1917, a mis au point un instrument à ondes électromagnétiques, influencé d'un système de protection des prisonniers. On gardait les prisonniers dans des enclos avec des ondes et Térémine s'est aperçu que lorsque le prisonnier s'approchait près de l'onde, selon ses mouvements, la variation pouvait produire des ondes sonores. Et il en a créé un instrument. J'ai retrouvé un instrument de 1954 où Térémine lui-même explique en quelques mots et en russe la naissance du Tereminovox.
Электромузыкальный инструмент Терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
Donc Léon Térémine, ici, était lui-même en action.
Au Tereminovox.
Au Tereminovox, oui. C'est donc un enregistrement de la radio-télévision de Moscou qui date de 1954, Jean-Yves Pat.
Oui, c'est assez étonnant d'entendre Térémine lui-même. En 1954, Obokov mourait. Et vous le savez, c'était aussi le triomphe des ondes. Alors, Martenot, cette fois, qui font partie de la même famille, qu'on trouve dans toutes sortes de films, comme vous le disiez, d'épouvante, d'anticipation, d'angoisse, ou des films plus légers comme Fantomas, par exemple. Voilà, alors à Verdun, cette grande cérémonie de 1936 se termine par un grand serment qui a été écrit par Jean Subervile, qu'il dit lui-même au micro. C'est un serment qui ensuite sera traduit dans toutes les langues et chacun des groupes représentant les anciens combattants de 1916 répéteront le serment. Mais on le sait bien, malheureusement, ça se termine très mal. On écoute quelques mots de Jean Subervile et on se quitte là-dessus.
Oh, vous tous qui n'êtes plus... Vous, si chers à la mémoire de vos patries, si chers au cœur de ceux qui vous ont vu tomber, vous qui avez combattu ici ou en quelque autre champ de mort, vous qui avez été meurtri par le fer, brûlé par le feu, précipité du haut des airs ou suffoqué par les gaz, vous qui dormez dans une terre, et vous qui avez été engloutis, vous dont les noms figurent sur des épitaphes, parce qu'il nous fut possible de connaître les circonstances de votre...
C'est impressionnant, c'est vrai, il y a un ton qui est le ton de l'époque.
Il y a un ton, il y a une manière de chanter, de chanter la poésie, le sujet évidemment est éminemment dramatique. Je voulais quand même vous faire entendre ça, même si c'est pas purement un produit France Musique, parce que ça parle beaucoup, mais c'est aussi un lieu de création, comme vous avez pu le comprendre, avec cette œuvre qui a été commandée et qui est tout à fait dans l'air du temps. On a beaucoup parlé de l'avant-garde russe avec Stravinsky. Je crois que là aussi on franchit une avant-garde qui a le désir d'être international et ce rassemblement pour la paix en est peut-être un des symboles les plus puissants.
Merci Jean-Yves Pat.
À la semaine prochaine, on sera plus joyeux.